On va passer un petit peu en face l'Arlequin, Parc Jean Verlac. On va frôler la place des Géants. On va arriver ensuite sur Grand Place et on va essayer de passer, en espérant qu'on aura le temps, de passer un peu derrière jusqu'aux Essarts côté Chirol.
Vous écoutez le podcast
Les Agités du Bocal.
Conseil de développement
Grenoble-Alpes Métropole.
Les Agités du Bocal vous présentent les marches sensibles du Conseil de développement. Épisode 4, partage de l'espace public à l'heure de la sortie des établissements scolaires dans le quartier de la Villeneuve. Orchestrée par Émilie, Gilles et Jean-Baptiste, cette marche sensible avait pour but de questionner, par l'expérience, ces lieux de croisement et de confrontation entre des sphères de vie plurielles que sont les espaces qui entourent les établissements scolaires. Accompagnée par la chercheuse Noa Schumacher, cette expérience a démarré devant l'école Christophe Turc pour se terminer dans les allées de Grand Place, lieu de vie important de la jeunesse. La proposition de Noa était d'observer particulièrement l'usage public par les petits-enfants de moins de 6 ans, les enfants et les adolescents, en mettant entre parenthèses les remarques générales sur l'architecture ou l'aménagement des quartiers. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Donc Gilles et moi, on est tous les deux du conseil de développement habitants du quartier. Donc moi, j'habite Vigny-Musset à côté. Par ailleurs, il se trouve que je suis géographe et chercheur à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine.
J'habite dans le quartier à côté de la Villeneuve depuis 40 ans. Donc on m'a sollicité pour... répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur la Villeneuve, tout ce que vous voulez savoir. Mais on est surtout là pour voir l'espace public, les enfants, etc. Donc je répondrai si on me pose des questions.
Noa, je suis urbaniste et enseignante à l'Institut d'urbanisme et géographie alpine. Et je réalise une thèse sur les jeunes enfants dans l'espace public, donc les enfants de moins de 6 ans, une thèse en aménagement, donc sur une échelle plutôt micro.
Pour un enfant, ça va de 0 à 18 ans. C'est difficile d'observer à la fois des enfants de 0 et de 18 ans. Ça peut permettre d'avoir un peu un panel plus large de ce qu'est l'enfance et la jeunesse dans ces quartiers-là. Peut-être observer aussi ce qui n'est pas, ce qui peut nous paraître, il n'y aura pas forcément d'enfants partout, mais observer qu'est-ce qui pourrait être un lieu de l'enfance, de la jeunesse, et éviter d'avoir en tête que l'enfant ne fait que jouer aussi. L'enfant passe, même si il ne joue pas, donc il peut avoir des difficultés, des amusements dans des endroits qui ne sont pas forcément prévus pour.
Étape numéro 1, sortie de l'école primaire Christophe Turc.
À les sorties d'école, il y a une relative fluidité, chose que dans nos villes, petites villes ou villages, c'est plutôt la cohue à la sortie, avec les voitures qui s'entassent les unes sur les autres, alors que là, c'est en toute sécurité. Voilà, je ne sais pas si partout c'est pareil, mais c'est la leçon à retenir par rapport aux futures implantations de groupes scolaires, quels qu'ils soient, c'est d'essayer de les mettre dans un contexte où on observe la commodité pour venir chercher ses enfants. On ne peut pas toujours venir à pied. Proximité des transports en commun et puis la sécurité aussi des enfants.
L'école d'où on vient, c'est Vigny-Musset, quartier plus nouveau, hein, qu'on avait conçu avec des rues circulantes. On vient d'interdire la rue devant l'école, qui est devenue une place aux enfants, et elle a été aménagée. Donc on a vu les enfants s'approprier un piédestal qui était fait là pour qu'ils puissent monter dessus, etc. Et effectivement, les enfants, à part la mère qui disait « ne monte pas là-dessus, tu vas tomber », il n'y avait pas de danger flagrant.
Étape 2, la dalle du village olympique.
L'ambiance dalle du village olympique, voilà, qui est très particulière. Enfin, le village olympique, c'est un quartier qui est quand même assez fermé, assez communautaire aussi. Ma femme a travaillé pendant 2 ans à cette crèche-là, et en tant qu'éducatrice, et c'est vrai qu'elle me dit, voilà, il y a très peu de gamins qui parlent français, par exemple, et puis c'est très communautaire. Il y a par exemple une grosse communauté turque ici. Voilà, on a vu Istanbul Bar derrière, et avec un aspect assez fermé. Je pense, qui est lié à la configuration urbaine, c'est-à-dire depuis le Vigny-Musset, l'IUGA, etc. Enfin, les gens de l'IUGA ne viennent pas boire des verres ici, quoi, autant que je sache. Donc c'est voilà, un quartier avec un urbanisme qui crée de l'entre-soi, qui peut être peut-être un peu sécurisant pour des enfants. Enfin, on voit souvent des enfants en liberté et en même temps, voilà, quelque chose d'un peu fermé.
Question qu'on peut se poser au niveau des urbanistes. Quels étaient leur état d'esprit quand ils ont conçu ça ? Les urbanistes, ils ont toujours une logique de réflexion, d'implantation. Ils font ça ici pour telle et telle raison, sauf que les raisons avec le temps changent. Donc on se retrouve aujourd'hui avec quelque chose, mais pourquoi ils ont fait ça ?
On croise ici, on en a croisé quand on a fait la reconnaissance des gens qui habitent ici depuis 68, etc., et qui pensent que c'est le rêve d'habiter ici, qui sont très heureux, très contents, qui trouvent que c'est vraiment un quartier agréable, etc. Alors il y a effectivement un certain nombre de défauts. Il y a ce côté assez fermé qui fait que ça peut paraître obscur aussi de l'extérieur. On ne sait pas ce qu'on va... Voilà, on a un peu peur.
On ait les commerces, les services dans un périmètre assez proche pour tout faire à pied, c'était ça ?
Il y avait aussi le fait que les services et les écoles ne soient pas cloisonnés, ouais, on puisse passer d'un espace public à la cour de l'école sans qu'il y ait une barrière, par exemple. Moi, je voulais dire que la population a changé depuis 68. Donc il y avait beaucoup d'athélos, de classe moyenne qui sont partis. Hein. Et donc maintenant, souvent, il y a des personnes, on leur propose un logement social, COVO, ou c'est à l'Arlequin, ils font la tronche, mais ils y vont quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. Et voilà. Et autrement, il y a effectivement des associations qui militent pour la défense du patrimoine ici. Ils veulent que le caractère du village olympique soit conservé. Alors ça pose des questions parce que, par exemple, il y a un des gros défauts, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. À l'époque, 4 étages, c'est pas obligatoire. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes justement âgées qui sont parties parce qu'elles ne peuvent plus monter l'escalier.
C'est-à-dire que c'est bien que les gens ne restent pas une vie entière au même endroit. La grande caractéristique, c'est que quand on a construit ici, il n'y avait rien. Moi, j'ai un copain qui me disait, c'est lui qui parle, hein, moi, gamin, je pêchais des grenouilles là où aujourd'hui il y a la Villeneuve. Autre remarque, c'est quand même un bâti pour les Jeux Olympiques. Et depuis, on n'a pas arrêté dans les programmes olympiques de se dire est-ce que c'est recyclé, est-ce que c'est démonté, est-ce qu'on... Hein, il y a toujours ce débat là-dessus. En tout cas, là, c'était fait pour les athlètes, puis c'est devenu le logement, avec un investissement dans la qualité des espaces publics. Par exemple, ce qui me frappe, moi, il y a 20 ans que je n'étais pas venu, les œuvres d'art qui restent en bon état... Elles valent une fortune. Il n'y a pas du tout d'investissement de cette nature aujourd'hui dans des œuvres dans l'espace public.
Je suis quand même agréablement surpris de la configuration, de la logique qu'il y avait, de la tenue. Ça change un peu de l'image qu'on peut véhiculer, village olympique et tout ça.
On va peut-être continuer du coup, revenir par là et prendre à gauche pour passer sur, pas sur cette passerelle-là, mais sur l'autre, devant le collège olympique.
C'est très proche des projections des villes du futur, en fait, des espaces sans voiture, avec beaucoup d'arbres, des parcs, des commerces.
Notre expérience à l'instant, elle n'est pas désagréable.
C'est hyper bien pensé. Ah,
on dirait...
Des ouvertures avec des paysages superbes.
On me dirait, on file un appartement ici, je me dirais pas quel pépin.
Étape 3, le collège olympique.
On a eu un moment, un regard d'un urbaniste parisien qui était connu. Il a dit que nous vivions en autarcie, repliés sur nous-mêmes, coupés sur l'extérieur. Nous refusions de rencontrer les voitures, fallait casser les passerelles et que tout le monde soit au même niveau. Ça a fait bondir dans le quartier parce que le côté on vit comme on vit, les gens peuvent venir nous voir, il n'y a jamais refusé à personne de venir. Et surtout quand on a un tramway qui nous amène au centre-ville où on veut très rapidement, on n'est pas coupé du monde.
Mais là, je suis frappé effectivement de la qualité corporelle de déplacement dans le quartier.
Voilà, ils attendent, ça va être...
Étape 4, la galerie de l'Arlequin.
Il y a la galerie, donc on parle de montée, voilà, tu habites dans quelle montée? Donc au 130 par exemple ici. C'est l'Arlequin. On a parfois tendance à réduire la Villeneuve à l'Arlequin. Ça, c'est vrai que c'est le lieu emblématique de la Villeneuve, c'est la galerie de l'Arlequin.
Quand il a été créé, c'était vraiment un quartier futuriste. C'est celui-là, c'est cette partie-là. Il y avait une utopie.
L'utopie de la Villeneuve, c'est vraiment la galerie de l'Arlequin. Oui, oui. Typiquement. Ouais.
Les signes. Alors d'abord, le choix qui a été fait, c'était à l'époque, c'était le maire du Bedeau qui est arrivé en 65 et il a voulu que. C'était un montagnard, il faisait pas mal d'alpinistes, il voulait qu'on voit des montagnes de partout. Donc il n'y avait pas de vis-à-vis. Donc pourquoi pas de vis-à-vis? Il fallait mettre des immeubles plus hauts et éloignés les uns des autres. D'où ce serpent qui est là, venu à l'Arlequin, duquel on voit tout. Et d'autre part, il voulait aussi que les équipements publics soient complètement intégrés au paysage. Les écoles, comme je disais tout à l'heure, elles sont en pied d'immeuble. Et au début, c'est vrai que la mixité sociale était réalisée. Il y a des intellos qui sont arrivés à Grenoble, venant de Paris, parce qu'ils voulaient être dans ce projet. Dans les années 72-75, ils ont habité là. Les choses sont dégradées, ils ont plus de moyens, ils vont se construire une petite maison à l'extérieur, et ils quittent le quartier, et finalement, les populations qui sont là ont changé complètement de type de population.
Concernant la jeunesse, par exemple, au départ, les écoles étaient complètement ouvertes sur le parc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grillage pour délimiter les cours de récréation, par exemple, ce qui était assez utopique et futuriste. Sachez que
mes enfants sont très beaux. Dernière étape, Grand Place, via la maison des habitants et des habitantes, le patio, sa bibliothèque et son calme.
Noa disait qu'elle avait fait une enquête il y a quelque temps sur les collégiens de la Villeneuve-des-Chirolles qui disaient qu'en gros, pour les ados de par ici, le centre commercial de Grand Place, c'est le spot, quoi. Enfin, ça peut être un point de fixation et d'appropriation de l'espace des jeunes ados.
Ici, il y a plusieurs espaces. Effectivement, on peut faire une traversée. Il y a la bibliothèque Yacine Caleb, qui est aussi une bibliothèque publique, et le McDonald's, qui sont deux gros spots. et après, les galeries aussi. En fait, il y a plein d'espaces pour s'asseoir qui peuvent être appropriés.
Après la sortie d'école, du collège, non ? Et après 17h, j'ai l'impression qu'on n'a plus vu un seul enfant, un jeune. Donc c'est ça qui est surprenant à l'extérieur. Je les ai vus et je les ai croisés, ils rentrent chez eux, mais...
Peut-être qu'il y avait, au début, la première demi-heure, on était sur des horaires pour les enfants plus petits. On a vu les mamans avec les poussettes, et puis on a observé la sortie du collège. Et ce qui est intéressant, c'est quand même la différence d'ambiance, quand avant la passerelle et après la passerelle. Et puis vers le collège, on se faisait la remarque qu'il y a vraiment un mélange. En fait, il y avait une grande diversité et que ça semblait a priori relativement harmonieux. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que en fait, il y a des groupes de garçons, des groupes de filles, et il y a quand même des groupes de garçons mélangés avec des filles. Et l'autre chose qui m'a surprise, c'est que selon les différents quartiers, il y a un lien direct avec la propreté. Le premier quartier qu'on a visité, en fait, on a trouvé ça vraiment très agréable, végétalisé et très propre. Et après, on avait des ambiances quand même très différentes. Et aussi, ce que j'ai trouvé qui m'a vraiment surprise, pour le coup, c'est qu'on a des jeunes qui nous ont dit bonjour. On passait et ils nous disaient bonjour.
En général, ici, ils s'adressent facilement à nous, plus qu'au centre-ville, par exemple. Agréablement surprise, mais je ne sais pas si c'est qu'aujourd'hui, mais par la sortie du collège, qui était vraiment une sortie de collège tout à fait apaisée. Les enfants avaient l'air plutôt contents.
C'est dommage qu'il ait fait mauvais, parce qu'on n'a pas vu l'usage vraiment de l'espace public par les enfants. Et... Ouais, c'est beaucoup de trottinettes quand même, de deux roues dans l'espace piéton.
Ça devait être intéressant l'été, en période caniculaire, quand il faisait très chaud dans les logements. Et j'imagine que l'espace public était énormément investi comme lieu de vie privé, finalement. Je ne sais pas si tu as pu repérer ça dans tes...
Je n'ai pas fait d'observation en pleine canicule, donc je ne pourrais pas répondre. Mais je pense effectivement que le parc, il est une extension des maisons. Mais c'est ce que je disais à certains, c'est que ces quartiers-là, ils ont été construits de manière à se fermer de l'extérieur et notamment à exclure la voiture. Mais par contre, à l'intérieur, les bâtiments sont ouverts vers l'extérieur et il y a une utilisation des parcs par beaucoup de tranches d'âge.
Il y a des zones de fraîcheur comme le lac, et à côté du lac, il y a un endroit où c'est arboré, donc il y a de l'ombre. Et régulièrement, les gens investissent l'espace. Et pendant la canicule, c'était bondé, là, ce coin-là.
Par contre, peut-être pour contrebalancer un peu ce récit un peu idyllique de ces espaces tout piétons, tout beaux, voilà, les enfants, ils racontent quand même qu'il y a des endroits à éviter dans ces parcs-là, parce qu'il y a les jeunes. Alors quand on est en sixième et qu'on parle des jeunes, c'est qui les jeunes? C'est assez flou. C'est les plus grands, c'est ceux qui ont des activités illicites. Mais ça peut aussi être les copains qu'on n'aime pas, ceux de l'école qu'on n'aime pas. Et les enfants peuvent aussi raconter des stratégies d'évitement, de faire des détours pour rentrer chez eux parce que ce voisin-là, il nous fait peur, il y a un chien qui peut nous faire peur. Donc il y a aussi tout ce volet-là qu'il ne faut pas oublier sur la part sensible de rapport à ce quartier-là. Mais je parle du coup surtout de la Villeneuve qu'on n'a pas vue, celle des Chérolles, que je connais un peu plus. Mais il y a aussi des choses plaisantes. On est attaché au quartier parce qu'on a pu y participer, par exemple, en faisant un atelier avec le centre de loisirs. On a pu laisser les marques. Vous verrez, donc, si vous traversez la Villeneuve des Chérolles, il y a des bacs à fleurs en béton sur lesquels il y a des mosaïques. Ben, ça, c'est les enfants du quartier, donc ils vont raconter. Il y a la maison des écrits aussi, où il y a les silhouettes des enfants. Donc tout ça, c'est des lieux dans lesquels ils sont attachés et dans lesquels ils peuvent se reconnaître ensuite. Et garder parfois aussi ce lien de changement entre le primaire, le collège, où ils restent attachés à l'école primaire, ils repassent même volontairement devant l'école primaire, voir les instituts. Et donc il y a comme ça des lieux dans ces quartiers-là qui vont rassembler les jeunes et les enfants. Peut-être pour revenir du coup sur le projet, à la base, c'est un atelier qui est porté par une équipe de géographes universitaires et d'une professeure de collège du collège Jean Villard. Et des artistes, vidéastes et photographes. Et l'idée, c'est de faire raconter leur quartier aux enfants par différentes méthodes, en les accompagnant sur le terrain, en passant par le jeu, en leur demandant les lieux qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. Et Grand Place revient souvent comme un lieu assez idyllique, sans pour autant être dans la consommation. C'est pas forcément des enfants qui viennent acheter, mais ils peuvent se poser. Ils se donnent rendez-vous, il y a des animations aussi à Grand Place. Que ceux qui peuvent raconter l'avenue du Père Noël ou le mur d'escalade ou des choses qui viennent ponctuellement aussi et qui sont gratuites finalement dans ce lieu-là.
Moi, j'ai pu observer dans des travaux en géographie sociale, mais qui peut être assez intéressant quand on observe la jeunesse, c'est vraiment ces questions d'appropriation territoriale, c'est-à-dire que les enfants et les jeunes ont un espace vécu qui est globalement très différent de celui des adultes. Et c'est un espace vécu qui s'élargit d'une tranche d'âge à l'autre. C'est-à-dire quand on est petit, en général, la crèche n'est pas loin, l'école maternelle, primaire, etc. Puis on ne bouge pas beaucoup. Et puis... Les enfants sont souvent beaucoup plus attachés au quartier proche que finalement les adultes qui ont aussi un lieu de travail qui est plus loin, qui ont des pratiques spatiales qui sont beaucoup plus larges. Et donc on a une appropriation par cercle concentrique comme ça un peu, c'est-à-dire quand on passe au collège, on va un peu plus loin, au lycée, on va encore un peu plus loin, etc. Et puis l'âge étudiant, c'est peut-être l'âge où on a l'espace vécu le plus dilué, puisqu'après ça peut se resserrer. Mais c'est assez intéressant de regarder comment le territoire se construit par le prisme des enfants. C'est assez, voilà, ça donne des choses assez différentes.
Des jeunes du collège Jean Villard, il y en a pas mal qui prenaient le tram pour contourner le quartier, en fait, où les parents n'autorisaient pas à rentrer tout droit par le quartier. Et ils faisaient un détour finalement en prenant le tram qui contourne soigneusement la Villeneuve. Mais ça, c'est pareil, c'est du coup une stratégie d'évitement, mais du coup plutôt imposée par les parents.
Cette série de podcasts a pour but de partager l'expérience singulière des marches sensibles du C2D avec le plus grand nombre et de rendre compte à la fois de la réalité sensible et sonore des lieux explorés, mais également de l'expérience collective vécue. N'hésitez pas à vous rendre sur le journal de bord AGT du C2D pour en savoir plus.